franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et les épizooties, ces grandes épidémies qui se multiplient dans l'élevage, sont aujourd'hui à la une de la science.
Un matin, 6 canards morts. Ouh, il y a un problème. 2 heures après, ouh, il y en avait 1 dizaine. Vite, on appelle le vétérinaire. Ouh là là, vite, vite, on fait l'analyse. Forcément, on fait l'analyse. Ouh, mais finalement, positif. Et en attendant, eh bien, confiner les canards et ramasser les morts.
Voilà, extrait d'un reportage dans le GERS de Corinne Cutila, diffusé le 6 janvier dernier sur France Inter. Et depuis 30 ans maintenant, les agronomes, les éleveurs du monde entier remarquent une augmentation des grandes pandémies animales, qu'elles soient virales comme la grippe aviaire, bactérienne ou dues à des parasites. Pour comprendre justement les mécanismes qui favorisent ces pandémies, nous sommes en ligne avec vous, Thierry Pinault. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du département santé animale à l'INRA et dans ce studio avec nous, comme tous les lundis, Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Avec le magazine reporter.net, partenaire de notre Une de la Science. Hervé, la grippe aviaire qui sévit en ce moment dans le sud-ouest de la France, alors ça n'est qu'un exemple, hein, malheureusement, des multiples épidémies qui touchent le monde entier et le monde de l'élevage.
Tout à fait. Alors ça n'est qu'un exemple qui d'ailleurs n'est pas fini. Vous vous rappelez que la crise aviaire a démarré à l'automne dernier, a affecté les bons repas de décembre, si j'ose dire, eh bien, ouais. Le virus H5N8 de la grippe aviaire est toujours actif. On compte encore 95 foyers en France et 1 million de canards vont être abattus pendant le mois de janvier. Mais ça ne se réduit pas à la France. On détecte aussi 724 foyers de grippe aviaire en Europe. On y en a aussi en Israël, en Égypte, en Russie, en Iran, en Ukraine. Donc là, on sent qu'il y a une vraie pandémie mondiale, en fait. Et même en Corée du Sud, où il y avait déjà eu un abattage extrêmement important, une alerte très grave en décembre, il y avait 16 millions de poulets et de canards qui avaient été abattus.
Incroyable.
Eh bien, les signes de la grippe aviaire continuent. Mmh. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que non seulement cette grippe aviaire est mondiale, mais comme vous l'avez dit et comme va le dire Monsieur Pinault, eh bien, c'est d'autres maladies animales qui se répandent à travers le globe.
Axel.
Thierry Pinault, depuis combien de temps on se rend compte que ces épizooties sont en augmentation dans l'élevage?
Alors, on s'en rend compte depuis peut-être, je dirais, une vingtaine, une trentaine d'années, à mesure effectivement que les moyens de surveillance se sont rationalisés, se sont améliorés, que les méthodes de surveillance, elles aussi, se sont disséminées dans différents pays. Donc, on voit beaucoup mieux parce qu'on observe beaucoup mieux également. Et puis, bah, il faut pas se voiler la face. On élève également à la surface de la planète de plus en plus d'animaux pour répondre à un besoin d'une population qui est avide de denrées d'origine animale, donc dans tous les pays qui sont en émergence économique, on mange de plus en plus de denrées d'origine animale, que ce soit de la viande, du lait, des œufs.
Vous êtes en train d'y venir, alors quelles sont les causes de la multiplication des épidémies, si on devait en citer quelques-unes ?
Eh bien, l'accroissement, donc je l'ai cité, du nombre des animaux qui sont élevés, des populations d'animaux élevées, mais il y a également le problème que posent certains changements d'usage des terres, en particulier, vous imaginez bien que la déforestation dans certaines zones ouvre des brèches qui sont, pour les agents pathogènes, de nouvelles interfaces, finalement, entre faune sauvage, faune d'élevage et humain, donc des brèches dans lesquelles, finalement, des agents pathogènes issus de la faune sauvage peuvent entrer. On a également un paramètre qui est très important, qui est celui de l'extrême facilité désormais à se déplacer, nous humains, très rapidement, sur de longues distances, ainsi que de déplacer des denrées d'origine animale. Donc, en nous déplaçant ou en déplaçant des animaux ou des denrées, on peut également déplacer des agents pathogènes et ou même des éléments de résistance aux antibiotiques qui se propagent finalement un peu à la manière aussi d'une épidémie. On peut avoir également des pays qui deviennent, malgré eux, des maillons faibles dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies. Vous imaginez bien que dans des malheureux pays comme la Syrie, le Mali, la Libye actuellement, les services vétérinaires sont totalement désorganisés et ne peuvent plus remplir leur mission qui sont normalement coordonnées par l'OIE, qui est l'Organisation Mondiale pour la Santé Animale.
Est-ce que l'impact de ces maladies est différent selon le type d'élevage? On pense à l'élevage intensif, l'élevage en plein air, l'élevage fermier. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des différences notables?
Alors vraiment, je me garderais de conclure que c'est le système de production qui induit automatiquement un certain état sanitaire. Ce serait vraiment trop manichéen de conclure que l'intensif ou le bio serait vertueux par nature. Donc c'est plutôt la conduite de l'élevage qui va véritablement influencer sur l'état sanitaire. Donc de ce fait, c'est à la fois la compétence de l'éleveur, son attention, c'est l'art de l'éleveur que de garantir un bon état sanitaire.
Eric Emfa.
Thierry Pinault, vous soulignez quand même par exemple l'importance des antibiotiques, et si on utilise maintenant beaucoup d'antibiotiques dans les élevages, c'est bien parce qu'il y a une industrialisation des élevages. Alors est-ce qu'il ne faut pas réduire les antibiotiques et donc changer les modes d'élevage?
Alors, on peut à la fois réduire en conservant des modes d'élevage comme ceux que l'on connaît actuellement en Europe, et je vais vous citer quelques exemples, et puis il faut également considérer que les antibiotiques, c'est véritablement fait pour traiter les animaux quand il y en a vraiment besoin, et ça peut nous aider aussi à maintenir le bien-être des animaux, et il faudrait cesser à l'échelle planétaire de faire des mauvais usages des antibiotiques. Et vous savez à ce titre que l'Europe est la seule zone géographique à l'échelle de la planète qui interdit l'usage des antibiotiques en tant que promoteur de croissance.
Ouais,
de
Pinault,
grands pays comme les États-Unis continuent de les utiliser, et le sud-est de l'Asie est très très demandeur en antibiotiques actuellement.
Ouais, on a du mal quand même à associer les deux termes bien-être animal et élevage intensif, hein, si vous permettez.
Alors, j'ai pas voulu faire l'association obligatoire, hein, mais je vous disais que, par exemple, en Europe, des pays comme les Pays-Bas, sans changer leur filière de production, ont réduit en 5 ans de 50% la quantité d'antibiotiques qu'ils ont utilisés. Le Danemark a suivi. En France, avec le plan Eco-Antibio 2017, en 5 ans, c'est une réduction de 25%. Et pourtant, la productivité globale à l'échelle de ces pays a été maintenue. Donc c'est bien la preuve qu'on peut, par des comportements vertueux, en faisant très attention aux prescriptions, on peut réduire tout à fait considérablement les usages d'antibiotiques, et je crois qu'il faut vraiment poursuivre sur cette voie.
Une autre question en lien avec l'élevage intensif, mais un peu loin de l'antibiorésistance. Est-ce que l'appauvrissement de la diversité génétique des animaux d'élevage peut être une cause à invoquer pour l'augmentation de ces maladies ?
Oui, oui, oui. Le fait que certaines races sont devenues, en matière de robustesse naturelle, sous-optimales vis-à-vis de certains pathogènes, peut être une conséquence et un effet des schémas de sélection au long terme. Et donc, actuellement, nous avons vraiment des programmes de recherche pour réinsuffler dans des races animales de production de la robustesse naturelle. Et ce sont dans les races anciennes ou les races qui sont préservées, et Dieu sait si en France nous avons accès à ces races, que nous essayons de trouver des éléments pour booster, pour doper l'immunité naturelle des animaux vis-à-vis des agents pathogènes auxquels ils sont confrontés. Donc ça, c'est véritablement un objectif de sélection en agronomie pour le futur, que de réintroduire une robustesse naturelle dans les animaux d'élevage.
Mathieu Ricard, que la question animale intéresse évidemment.
Si vous avez, comme c'est souvent le cas aux États-Unis, 100 000 poules dans un grand local qui est géré par 30 personnes, chaque poule est à peu près l'équivalent d'une feuille A4 pour même pas se déplacer, qu'on leur cautérise le bec au fer rouge. Parler de bien-être animal, c'est un peu un euphémisme.
On est d'accord. Hervé, pour terminer.
Quand même, est-ce qu'il n'y a pas une évolution des modes de production agricole à envisager? C'est la question quand même qu'on se pose au vu de cette multiplication de maladies.
Thierry Pinault.
Alors, il y a des évolutions à envisager, à la fois sur les modes de production, à la fois également sur nos capacités à surveiller, à détecter très précocement les pathologies pour mieux les circonscrire avant qu'elles ne se diffusent, qu'elles ne diffusent. Il y a tout un pan des recherches, en particulier en partenariat avec l'industrie actuellement, qui se développe et qui consiste à analyser automatiquement le comportement ou certains comportements des animaux pour détecter extrêmement précocement les premiers troubles comportementaux qui peuvent signer le début d'une infection et donc gérer les animaux malades ou gérer tout le cheptel.
Merci Thierry Pinault. Et puis donc un dossier à retrouver dans reporter.net, sur reporter.net exactement, Hervé Kempf. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Et Axel, à demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, policiers, marins, ingénieurs des mines, autant de métiers fermés aux diabétiques en France. C'est ce que dénoncent cette semaine deux associations de patients. Marc de Cardanet, médecin et président de l'association des jeunes diabétiques, s'oppose à ces restrictions qu'il estime datées et en inéquation avec le quotidien actuel des malades. En effet, de nouveaux outils comme les pompes à insuline ou les capteurs de glucose en continu permettent aujourd'hui à nombre de diabétiques de mener une vie quasi normale. Les associations désirent donc que les professions interdites soient réévaluées chaque année selon les évolutions technologiques et médicamenteuses. Des scientifiques nouent le plus petit nœud du monde. C'est l'exploit réalisé par une équipe de l'université de Manchester avec une chaîne de 192 atomes d'une longueur de 20 nanomètres, donnant lieu donc à une sorte de pièce de macramé à l'échelle atomique. Pour cela, ils ont développé une nouvelle méthode de tissage auto-assemblée de molécules d'oxygène et de fer autour d'un ion chloride. À terme, les chercheurs anglais espèrent que cette technique permettra de tresser des fils moléculaires et ainsi créer de nouveaux types de matériaux plus résistants, légers et flexibles. Et puis l'origine de la pollution atmosphérique de Pékin décryptée après des années d'études de l'atmosphère de la métropole. L'Institut chinois des physiques atmosphériques publie son analyse sur la formation des smogs, ces nuages de pollution qui stagnent régulièrement au-dessus de la capitale. Ces pics de pollution seraient dus à une combinaison de facteurs, l'arrivée de fumées industrielles qui bloquent l'évacuation des gaz d'échappement des véhicules de la capitale, formant une dangereuse accumulation. Pour peu que l'atmosphère soit trop humide, eh bien les concentrations de polluants explosent. Une vidéo d'ailleurs impressionnante de l'arrivée du smog sur Pékin est à voir sur la page Facebook de la Tête au Carré.